Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
8h02, bienvenue sur le MAC de l'IMO, merci d'être avec nous. On vous avait promis Bernard Cadeau, il est toujours là, on ne l'a pas laissé sortir. C'est notre invité pour cette deuxième heure, une heure d'interview, une demi-heure consacrée à la vie professionnelle, mais aussi à la vie privée pour terminer et clôturer cette dernière heure. Bernard Cadeau, on l'a souligné brièvement en introduction, vous êtes ex-président Orpi, vous avez travaillé 12 ans pour Orpi, vous avez une carrière de 30 ans dans l'immobilier, vous êtes aujourd'hui délégué général chez iListing, ça fait quand même un beau parcours, j'imagine que l'immobilier fait partie de votre ADN.
Ah oui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes très bienveillante et je vous en remercie parce que ça fait plus de 40 ans que je suis dans le business de l'immobilier.
Ça ne se voit pas Bernard, ça ne se voit pas.
Et je n'ai connu l'immobilier qu'à travers Orpi. Donc c'est vraiment ma famille, voilà, c'est ce qui fait partie de mon ADN justement dans ces modèles-là. On parlera des nouveaux modèles certainement immobiliers tout à l'heure, mais oui, ça a vraiment marqué et ma carrière et ma vie tout court, bien évidemment. Et j'ai acquis plusieurs convictions en dirigeant Orpi et en travaillant chez Orpi, puisque Orpi c'est une coopérative, et notamment cette première conviction qui a fait le projet dont vous parlez, qui s'appelle iListing, qui maintenant est plus un projet, qui est une réalité. Cette première conviction, c'était que à partager des mandats de vente, les agents immobiliers sont toujours gagnants et jamais perdants. Mais on va en reparler.
Et pourtant, c'est pas effectivement la norme
c'est
aujourd'hui.
Pas intuitif. C'est pas intuitif.
Ouais, c'est vrai. On verra. Vous avez débuté, c'est vrai, votre carrière d'agent immobilier en 1979.
Oui.
En achetant une agence. Elle était où cette agence?
Elle était à Gournay-sur-Marne, dans l'Est parisien.
D'accord.
Toutes les économies, la famille, on a mobilisé tout le monde, des dettes plus que raisonnables peut-être, mais voilà, c'est parti comme ça ce projet.
Ouais. Oui.
C'était. Et c'était une agence Orpi.
C'était une agence
Orpi. C'est comme ça que j'ai trouvé Orpi.
Voilà. Vous auriez pu choisir pourquoi Orpi à ce moment-là. C'était le hasard. C'était la localisation.
Alors, puisqu'on est entre nous et que tout est transparent,
personne
je vais vous dire
écoute,
que
allez-y.
Oui, c'était
évidemment
le hasard. Il faut être honnête parce que en 79, Orpi était pas balbutiant parce que Orpi avait déjà 12 ou 13 ans d'existence, mais c'est vrai que c'était relativement peu connu. Moi, j'avais une envie et un état d'esprit d'entrepreneur. Pour différentes raisons, je me suis retrouvé à sortir de la fac avec un diplôme et à me dire bah, finalement l'immobilier ça peut m'intéresser.
C'était un diplôme de quoi ?
C'est un diplôme de droit des affaires, ouais. Maîtrise de droit des affaires à la Sorbonne. Voilà.
Mais vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire ou pas trop ? Ou il y avait déjà cette idée d'entreprendre ?
L'idée d'entreprendre, elle était constante. Après, dans quel domaine ? Bon, alors j'avais dans mon entourage, et c'est mon meilleur ami, un agent immobilier Orpi qui a parfaitement bien réussi sa vie professionnelle, et sa vie tout court d'ailleurs, et qui m'a donné envie d'exercer ce métier-là. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux aller travailler chez toi ? Il me dit, viens quand tu veux, tu restes le temps que tu veux, mais je peux pas t'embaucher. Et puis, concomitamment, il me dit « Ah, mais il y a une petite agence qui était achetée, là, c'est des gens sérieux, tu vas pouvoir la dynamiser, la développer, etc. » Et de fil en aiguille, et puis parce que j'ai trouvé donc des gens bienveillants, des banquiers bienveillants, parce que c'est pas évident, quand on a 21 ans, d'aller voir un banquier et de lui dire « J'ai un super projet, et il va falloir me prêter de l'argent pour acheter un fonds de commerce.
Ouais. » Ça coûtait cher, vous vous souvenez, à l'époque ?
En proportion, j'ai dû acheter cette agence, alors on était en France, pardon pour celles et ceux qui étaient
on
pas
s'en souvient quand même.
À l'époque. J'ai dû l'acheter 250 000 francs et le SMIG était à moins de 1000 francs par mois. Voilà.
Non mais ça veut dire je pense que sur 40 ans on pourrait dire que c'est 250 000 euros aujourd'hui et que voilà on est à peu près dans les mêmes eaux. Vous sortez de la fac peu ou prou. Il faut réunir cette somme. C'est une somme. On vous prête pas comme ça sur votre bonne figure.
Non mais je dis j'ai eu des gens bienveillants autour de moi. J'ai eu une famille. J'ai des gens qui m'ont aidé aussi et des amis qui m'ont présenté à des banquiers bienveillants aussi. Les planètes étaient alignées sur cet aspect-là. Pour le reste, après, parfois je me suis demandé si c'était pas une histoire de dingue et si j'aurais pas dû faire autre chose. L'avenir a dit que non, donc j'en suis ravi. Mais voilà, c'est des histoires comme ça. La vie, c'est une succession de rencontres. j'ai eu à ce moment-là la chance de rencontrer ce qui allait être ma vie professionnelle et puis de rencontrer des gens exceptionnels qui m'ont permis de continuer dans cette vie d'entrepreneur.
Est-ce qu'on ne provoque pas un peu sa chance, Bernard ? Quand vous dites la vie d'entrepreneur, c'est de la chance, on la provoque sa chance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en off, pendant la publicité, on parlait de ces bâtisseurs justement qui étaient les vrais entrepreneurs. Et j'ai l'impression que ça vous caractérise complètement.
Je pense que oui, la chance, elle passe de temps en temps. Il faut savoir la saisir. Il vaut mieux monter dans le train que de rester sur le quai. Il y a un mot qui est souvent mal perçu, mais qui pour moi est un mot positif, c'est le mot opportuniste. Parce que opportuniste, c'est toujours très négatif. On se dit, ah ouais, opportuniste...
Carriériste,
il provient. Non, opportuniste, ça veut dire saisir des opportunités.
Exactement.
Pour moi, hein, en tout cas, c'est la définition que j'en donne. Et en l'occurrence, j'ai saisi cette opportunité là, peut-être avec un manque de discernement parce que ça paraît complètement fou de se dire allez on se lance là-dedans, etc. Bon, l'avenir m'a donné raison, j'en suis ravi, sinon on serait pas là ce matin en train d'en parler.
Justement, le Orpi, on peut imaginer début des années 80, vous lancez votre agence, est-ce que c'était déjà structuré, est-ce qu'il y avait un accompagnement, parce qu'aujourd'hui, bon, bien sûr vous avez développé tous ces outils, on le voit, c'est des réseaux maintenant très bien organisés, à l'époque c'était comment, c'était, il fallait tout faire, c'était le Far West ou vous aviez quand même un encadrement, comment c'était Orpi version début des années 80?
Alors, c'était le Far West dans la profession et je vais y revenir longuement parce que autant je suis ravi, je suis en pleine forme et je suis souriant ce matin, autant je suis un petit peu en colère de ce qui est en train de se passer dans la profession, on en parlera tout à l'heure. Non, c'était déjà structuré et c'était surtout révolutionnaire parce que les fondateurs d'Orpi, et je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais je salue mon ami Christophe Durand qui est le fils du fondateur historique, malheureusement disparu, d'Orpi, ils ont eu cette intuition et cette vision en 1966. Donc essayons de nous remettre dans ce contexte-là, de se dire... À quelques agents immobiliers, on va se réunir et on va avoir une offre commune de nos biens parce que, alors, pas d'internet, pas de téléphone portable, pas de tout ça bien évidemment. Et quand un client cherchait un bien immobilier, il poussait la porte des agences. Et il y avait des vitrines avec des annonces dedans et on regardait ce qu'il y avait dedans. C'était le seul média, un petit peu des journaux, les annonces du Figaro, mais bref. Donc dans ce contexte-là, ils se sont dit, on va se mettre ensemble, on se connaît, on se respecte, on est honnête, on fait notre travail avec beaucoup de déontologie et donc on va partager nos mandats de vente pour dire à un vendeur, lorsque vous donnerez le mandat à l'un d'entre nous, ils étaient 6 ou 7 je crois au départ, vous le donnerez pas à un seul, vous le donnerez à 6 en même temps. Et on va dire aux acquéreurs, lorsque vous pénétrerez dans l'une des 6 agences membres de ce groupement, qui n'était pas encore un groupement, qui était une association, un peu un club de copains, eh bien vous allez gagner du temps parce que c'est la même chose que si vous poussiez simultanément la porte de 6 agences. C'est ça le truc. Et ça paraît désuet aujourd'hui, ça paraît tellement évident. Et c'est pour ça que moi je suis conquis depuis si longtemps à cette idée de partage. C'est tellement évident aujourd'hui et tellement peu évident à l'époque. Dans ce contexte-là, alors je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais c'est juste pour resituer le contexte, la loi Hoguet n'existait pas. C'est-à-dire la loi fondatrice de nos métiers, elle est arrivée en 1974. Ça veut dire que 8 ans avant cette loi, ils avaient déjà une vision structurée et structurelle du marché. Et puis petit à petit, ils ont fait école. Parce que ils appartenaient au même syndicat professionnel qui s'appelle la FNAIM, que tout le monde connaît, et de réunion en réunion, on disait « Ah, dis donc, mais vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche ?» etc., etc. Ils se sont imposés des règles strictes. Ne pas amener deux fois le même bien dans le fichier commun, etc. etc.
Ah, le fichier commun, ça c'est une grande idée, on va en reparler.
Ah, oui.
On aime bien, je le disais en première partie d'émission, Linda, les acronymes. On aime bien décrypter les acronymes. Est-ce que vous savez qu'Orpi était un acronyme?
Ah non, je l'ignorais. Ah,
alors Bernard, Orpi, en plus vous venez d'être rebrandé, comme on dit. Donc maintenant il y a un magnifique O qu'on a tous pu voir effectivement sur le salon Reims, un O rouge très très brillant.
Il y a plusieurs identités visuelles successives effectivement, mais celle-ci est très jolie.
Elle est très très réussie effectivement. Orpi, ça veut dire
Organisation régionale des professionnels de l'immobilier.
Voilà, c'est ce que vous disiez, 5 agents immobiliers de la banlieue nord-ouest de Paris en 66.
Régional, pourquoi? Parce que c'était Paris, c'était Colombes, Asnières, la Garenne-Colombes, voilà.
Voilà, donc ils se mettent en commun. Cette idée justement de mise en commun de fichiers, vous avez collaboré également au fichier Amepi. Expliquez-nous, c'est une grande idée. C'est vrai que quand on est agent immobilier, son bien le plus précieux, c'est ce fameux mandat exclusif. On le protège comme la prunelle de ses yeux parce que si vous avez le mandat, vous allez faire la vente. Si vous allez faire la vente, c'est vous qui allez voir la commission. L'idée, et un peu révolutionnaire, c'est de partager, c'est de mettre en commun ces mandats. Oui. C'était assez bouleversant dans le paysage.
Alors, je vais faire d'abord un peu de cocorico, parce que de temps en temps, ça fait du bien, parce que le French bashing, on en a trop à mon goût.
Faites-vous plaisir.
Moi, je dis aujourd'hui et ce matin, et c'est vérifiable, Orpi a inventé le fichier commun avant les Américains. On vante les MLS à l'américaine, oui, qui ont permis et qui permettent toujours aux professionnels américains de maîtriser 98% de parts de marché, ce qui est loin d'être notre cas. Mais Orpi avait inventé ce système-là, il ne l'a pas industrialisé, mais c'était inventé avant les Américains, parce que les Américains ont commencé à pratiquer ça dans les années 70. Donc vous voyez, on avait un petit peu. Et effectivement, quand on est convaincu, vous savez, qu'un système fonctionne et qu'il est performant, en l'occurrence ce partage de mandat, et que, parce qu'il faut... Il faut reparler d'autres choses aussi, mais je vais répondre à votre question. Et que on se dit, ben, on va essayer de l'exporter et de le, c'est le cas de le dire, de le partager avec d'autres. Naturellement, on cherche à reproduire ou à dupliquer les martingales gagnantes, les recettes gagnantes. Pourquoi je dis j'ai besoin d'expliquer quelque chose, c'est que entre ce moment-là et puis le moment où effectivement j'ai contribué avec d'autres, et j'en suis très fier, à la création du fichier AMEPI qui s'appelait avant le FFIP, alors on parlait d'acronyme, hein, c'est encore autre chose, il y a eu une évolution considérable des mentalités dans la profession. Moi, j'ai démarré, je vous ai dit, quelques dizaines d'années en arrière, cette profession. Les professionnels de l'immobilier ne se parlaient pas. Ils ne se regardaient pas. Ils étaient, non pas concurrents, ils étaient ennemis les uns vis-à-vis des autres.
C'était culturel aussi à l'époque.
C'était culturel parce que, vous savez, dans la vie, il faut jamais se tromper d'adversaire et jamais se tromper de cible. Mais en l'occurrence, dans cette époque-là, eh bien, on changeait de trottoir quand on croisait. On n'appelait pas ça un confrère, hein, on appelait ça un concurrent, etc. etc. Et puis, petit à petit, ben, les mentalités ont évolué. Un jour, on s'est parlé. Un autre jour, on est allé boire un café ensemble. Le troisième jour, on s'est dit, ben, allez, on va faire une petite réunion de travail, on ira déjeuner, etc. Donc, les mentalités ont évolué et elles ont, cette évolution des mentalités a permis que moi et d'autres construisions ce qui s'appelle aujourd'hui le fichier AMEPI. Sur cette idée toute simple, encore une fois, c'est on partage des mandats. La différence d'AMEPI par rapport à Orpi, c'est qu'on ne partage que des mandats exclusifs, alors que chez Orpi, on dédoublonne les mandats simples et on partage les mandats exclusifs. Mais cette idée-là, elle est née d'Orpi, qui avait fait école donc outre-Atlantique, je vous l'ai dit. Et puis après, eh ben, on a créé avec les grands réseaux et les syndicats ce qui est aujourd'hui AMEPI.
Alors comment vous expliquez finalement que ce fichier AMEPI n'est pas connu finalement le succès qu'il mérite ? Parce que finalement l'objectif était sain, était vertueux, était productif pour tous.
On parlait, on était sur le Rent et on faisait une table ronde l'autre jour, et vous vous en souvenez, et le président actuel du fichier AMEPI disait « c'était une utopie ».
C'était trop beau pour la profession, c'était trop
non,
tôt.
Non, c'était pas trop beau. Mais c'était une utopie que de faire ça, et nous étions des utopistes. Et moi, je revendique parce que je trouve que c'est une qualité. C'est pas de la naïveté, ça peut être une qualité.
Bien sûr.
Vous savez, si vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Hein, et ben, c'est un petit peu ça l'utopie. On y a cru et on était absolument convaincus que 100% de la profession viendrait derrière nous. Au bout de 15 ans, c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas. Moi, j'en suis très triste, vraiment très triste, parce que cette belle utopie-là, elle a connu un plafond de verre. J'espère que ce plafond de verre pourra être brisé. Je suis pas très optimiste à cet égard-là. On va en parler, mais c'est dommage. C'est dommage parce que de l'idée de départ qui est une idée noble, généreuse, novatrice, révolutionnaire, enfin tout ce qu'on veut, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut. Je pense qu'on l'a enfermé un petit peu, sclérosé. On n'a peut-être pas vu l'évolution fantastique qui s'est produite dans notre profession, dans notre industrie, les nouveaux acteurs, enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
L'innovation aussi, hein, il y a eu du retard dans la profession.
Le numérique, le digital, enfin, voyons ça comme ça. Parce que, à la fois, il y a eu ces bouleversements vraiment fondamentaux. De l'autre côté, les parts de marché n'ont pas évolué. On est toujours seulement à 65% de parts de marché. Il reste encore les 35% à aller chercher. Et j'ai cette conviction-là, et c'est pour ça que je porte le projet e-listing, j'ai cette conviction que c'est uniquement par le partage des mandats exclusifs entre tous les professionnels qu'on pourra briser ce plafond de verre. Donc, je suis triste que ça soit pas produit, et je suis triste aussi que, on n'arrive pas à faire évoluer suffisamment rapidement les mentalités des décideurs.
Alors, Elistine, justement, comment ça fonctionne? À quoi ça répond? À qui c'est destiné?
Alors, idée de base, c'est une association qui s'appelle Partage Plus. On oublie Partage Plus, c'est juste pour vous citer le principe de la construction de cet outil. C'est associatif. Je viens du monde coopératif. Je crois à l'associatif, je crois au coopératif. Et donc, cette association, c'est aussi pour démontrer que tout le monde est le bienvenu dans l'association Partage Plus, quel qu'il soit. L'outil et la plateforme, ça s'appelle e-listing. Et c'est ce nom-là qu'il faut retenir parce que c'est vraiment l'outil de travail. L'idée de base, c'est l'œcuménisme total. Les choses ont évolué, de nouveaux modèles sont apparus. Personne ne peut dire un tel est un vrai professionnel, l'autre n'est pas un professionnel. Dès l'instant, et c'est notre démarche, dès l'instant où un professionnel dûment reconnu, signant la charte d'engagement que nous avons mis au point, la charte de déontologie, est en capacité de faire signer des mandats exclusif à un client, il a une vocation à utiliser la plateforme e-listing et à partager ses mandats. Vous voyez, on est resté sur des principes ultra basiques, ultra simples. Et ça, c'est vraiment un fondamental. On n'a pas voulu déroger à cette règle-là. Aujourd'hui, c'est ouvert depuis le 6 mars 2021. On est le 22 octobre 2021. Il y a 7800 utilisateurs et on va passer à 10 000 puisqu'on vient de signer des partenariats importants. On va passer à 10 000 utilisateurs à la fin de ce mois ou au début du mois de novembre. Et que se passe-t-il? D'abord, 100% des marques de tous les réseaux, de toutes les agences traditionnelles et de toutes les enseignes sont représentées. Avec plus ou moins, bien sûr, d'interlocuteurs et d'utilisateurs, parce que, on n'a pas franchement été aidé dans la démarche, hein, au début de notre démarche.
Des réticents ou des...
Toujours par rapport à ce clivage idéologique de dire certains sont des bons professionnels, d'autres pas. Nous, on a dit, on part du principe que, parce qu'il y a des bons et des mauvais professionnels partout. Donc, on a des représentants de toutes les marques, et ce sont les utilisateurs sur le terrain, les femmes et les hommes qui sont tous les jours sur le terrain, qui font signer des mandats de vente à leurs clients, qui nous disent, c'est intéressant, c'est utile, et je veux en être parce que ça m'aide dans mon travail.
Vous parlez de la mauvaise image donc des professionnels. Je rebondis, je me permets. C'est vrai qu'on sent une certaine défiance vis-à-vis de ces professionnels de l'immobilier, de la part finalement des clients aussi. Vous avez la chance d'avoir une expérience assez significative dans l'immobilier. Comment évoluer finalement cette image, une fois de plus, très méfiante?
Honnêtement, c'est beaucoup mieux qu'avant, parce que on traîne une mauvaise image depuis longtemps, mais on a travaillé les uns et les autres à améliorer cette image et à la redorer. On l'améliore comment ? On l'améliore par la compétence, on l'améliore par la transparence, on l'améliore par la proximité avec son client, et la proximité, c'est pas forcément une proximité physique. Les outils d'aujourd'hui nous permettent de rester en proximité avec nos clients sans forcément être à ses côtés. On est une opération immobilière, c'est tout sauf banal. C'est quelque chose qui est particulièrement impliquant. C'est une tranche de vie, c'est un crédit sur 15 ans ou sur 20 ans. C'est un peu un saut vers l'inconnu pour ceux qui ne connaissent pas ces métiers-là. Et ils ont besoin d'être accompagnés. Et les professionnels ont su se former... réviser un petit peu cette mauvaise image, apporter de la valeur. Et l'enjeu d'aujourd'hui et de demain surtout, c'est comment est-ce qu'on apporte de la valeur à son client et comment est-ce qu'on partage cette valeur. Parce que un des phénomènes marquants des dernières années, c'est l'émergence du numérique et du digital. Et il vous aura pas échappé que le numérique et le digital mettent à disposition des clients particuliers des tas de solutions qui pourraient leur donner envie de se passer de nous. Donc comment est-ce que nous, professionnels, on fait pour éviter et empêcher, quelque part, qu'il se passe de nous?
Voilà, résister ou plutôt s'acclimater à cette nouvelle donne du digital.
Il faut être caméléon, il faut savoir s'adapter. Les dinosaures ont disparu, les caméléons existent encore.
Ouais, on parcourt pratiquement 40 ans d'innovation dans l'immobilier avec notre invité Bernard Cadeau. Et évidemment, vraiment un accéléré. On n'a qu'une heure et c'est passionnant. Bernard, on vous retrouve dans un instant. On va marquer notre première pause musicale, un de vos choix. On va l'écouter et on se retrouve juste après pour justement évoquer cette digitalisation et ces révolutions que vous avez traversées. À tout de suite.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Le Mac de Limo, c'est avec notre grand invité Bernard Cadeau. On est en direct 8h24. Bernard, New York avec toi, téléphone, un grand classique. On parlait des années 80.
Oui, un peu de rock'n'roll pour réveiller celles et ceux qui ne seraient pas encore réveillés. Et puis New York parce que c'est une ville que j'adore.
C'est vrai?
Franchement, ouais, ouais.
Pour y vivre?
J'essaye. Y vivre, je ne sais pas. Peut-être, non, peut-être pas toute la vie, parce que
froid.
La France, c'est beau, c'est sympa quand même. Mais ouais, c'est vraiment une ville que j'adore et dans laquelle je me rends aussi souvent que possible. Et ça me manque.
Allez, on parlait d'innovation avant le titre donc, de téléphone. Vous parliez finalement de l'évolution de ces innovations. Vous étiez au Rent et moi, ma première question, elle serait est-ce que vous constatez une évolution significative quant aux technologies, avancées numériques, s'agissant du secteur de l'immobilier? On a vu énormément de start-up au Rent.
Oui, 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 il y a eu. C'est plus qu'une évolution, ce sont des révolutions successives. Moi, j'ai connu l'époque où, quand on demandait aux gens de la tech telle ou telle chose parce qu'on avait telle ou telle idée, ils nous disaient c'est une bonne idée, mais ça, on ne peut pas le faire. On est désolé, mais non. Ou alors ça va prendre entre 6 mois et 1 an. Et l'évolution de la techno est telle que il y a plus de freins aujourd'hui. C'est-à-dire que, à la limite, les freins, c'est nos neurones, quoi. C'est notre capacité à inventer ou à imaginer des choses. Parce que ils savent faire, ils peuvent faire, intelligence artificielle notamment. J'étais hier soir, mon dernier rendez-vous sur le Rent, c'était avec une société qui s'appelle Silab, qui fait c'est même pas de la traduction, c'est pas du mot à mot. Ils recontextualisent une annonce immobilière dans la langue native, en anglais, en espagnol, peu importe. Bon, il y a 5 ans de ça, c'était inimaginable, etc., etc. Donc, oui, la technologie a fait faire des bons vraiment énormes à nos métiers. On en parlait tout à l'heure, il faut savoir s'adapter, il faut être pragmatique, il faut savoir prendre les virages. Les startups, vous évoquez les startups, et le Rennes, c'est la patrie des startups. Il y a ce fameux terme, ils pivotent régulièrement, parce qu'ils partent sur une idée, et puis ils s'aperçoivent que ils le font très rapidement, c'est ce qui leur permet de continuer d'exister, et de trouver leur marché. Quelque part, c'est un petit peu ce que nous devons faire, grâce à ces outils-là, et aussi parce que c'est sans doute ça l'opportunité qu'on peut avoir, c'est d'être en capacité, nous professionnels, d'agréger plusieurs solutions en même temps au service du client, parce que le seul vrai patron, c'est le client, alors qu'un particulier aura beaucoup de mal à agréger lui-même plusieurs solutions en même temps. Il pourra aller en chercher une tout seul peut-être, mais agréger ces différentes solutions dans le meilleur pour lui, ça doit rester l'apanage des professionnels. Mmh. Et c'est pour ça que le mariage de la tech et de l'industrie immobilière est très important et que ce Rent, une fois encore, en est l'illustration.
Il y a une petite société dans la radio digitale qui s'est montée il y a quelques années, qui a fait ses débuts au Rent. Vous vous en venez, ça s'appelait Radio Imo.
Je crois que vous étiez... un logo bleu et blanc, non ?
C'est ça. Et vous étiez un des premiers invités, Bernard Cadeau, à l'époque, Sylvain Lévy-Valencier, Olivier Lucas, qui vient de passer dans
ce studio. Deux utopistes de renom que maintenant toute la profession connaît. Effectivement, c'est Sylvain et Olivier. Et je suis ravi et un peu fier aussi, on peut le dire. J'ai été le second invité de la radio sur un Rent, avec des conditions et des moyens qui n'avaient rien à voir avec ce qu'est la radio IMO, aujourd'hui.
Alors justement,
j'ai fait partie des quelques-uns qui ont cru, d'abord dans les hommes et puis dans le projet.
Ouais, il y a un storytelling que raconte souvent Sylvain Lévy-Valency, un des cofondateurs, ils étaient sur une table de jardin. Est-ce que c'est vrai?
C'est la vérité vraie.
Ah, c'est du dossier.
C'était une table de jardin. Oui, il y a des dossiers.
Une table de camping.
Une table de jardin, deux chaises, le matériel minimum. Et c'est comme ça que les belles aventures, et humaines et professionnelles, parce que c'est pas parce que je suis sur Radio Imo que je dis ça, c'est parce que je le pense vraiment, et je crois que tout le monde le pense. C'est à la fois une belle aventure d'entrepreneur, mais surtout... avant tout, une belle aventure humaine, parce que ce sont des gens humains.
Bon, ça leur fera plaisir d'entendre ça, je suis sûr qu'ils écoutent en ce moment.
J'espère, ou qu'ils se sont réveillés avec téléphone.
Ah oui, là, c'était obligatoire. Une question justement sur ces transformations. Alors, vous avez vu toutes ces révolutions qui sont arrivées, on le disait. Le virage de l'an 2000, ce sont les portails qui aujourd'hui, les agents immobiliers ne peuvent plus travailler sans ces grands portails. Vous avez participé évidemment au lancement de Bien Ici, il y a Se Loger, il y a le Bon Coin qui arrive.
Sur l'émission, vous connaissez quand même, parce que j'ai des anecdotes aussi à vous raconter là-dessus.
Ah ben, on va entendre ça dans un instant. Et puis, ça s'est transformé aussi dans la façon de faire de l'immobilier. Il y avait les agents avec une agence d'Endur. Aujourd'hui, on voit des mandataires, des gens sans agence ou des centres d'affaires qui arrivent, qui débarquent là aussi souvent des États-Unis. On a l'impression que la profession se réinvente en permanence et que c'est extrêmement dynamique, même si ces modèles sont vus un peu avec méfiance au début ou par ceux qui étaient là avant. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, ils gagnent des parts de marché.
Alors, il y a énormément de sujets dans ce que vous venez de dire, donc je vais essayer de les reprendre dans l'ordre et ne pas en oublier.
Alors, on a les agences avec le digital et cette numérisation, et puis ce nouveau mode de vente, finalement.
Juste avant, parce que je ne l'ai pas encore dit, moi, je me qualifie vraiment de privilégié, parce que depuis le temps que je suis dans cette industrie, j'ai vraiment eu le privilège à la fois d'être acteur et spectateur de tas de changements et de tas de bouleversements. Et je souhaite ça à tout le monde. Parce que quand on aime son métier et son environnement et être au milieu de tout ça et un petit peu agir dans tout ça, c'est fantastique. Voilà. Internet, année 2000, je vais vous raconter une histoire. Avec Orpi, j'ai pris l'habitude de faire régulièrement des voyages d'études aux États-Unis. Fin 99, début 2000, arrive Internet. Et à l'occasion d'un de ces voyages d'études, on allait dans la Silicon Valley, on allait un petit peu partout, et on rencontre un monsieur qui nous est présenté comme le gourou d'Internet. Et je cite souvent cet exemple-là parce qu'il est tellement marquant, vous allez comprendre pourquoi, que je m'en souviens encore. Et c'était en 2000, c'était il y a plus de 20 ans. On arrive le matin dans cette salle de réunion, le gourou arrive, il nous dit bonjour, et ses premiers mots, je m'en souviens encore, c'est de dire « Internet arrive, il va y avoir du sang sur les murs, et les professionnels de l'immobilier vont disparaître ».
Disparaître carrément.
Point. Alors imaginez, il y a 15 personnes autour de la table. Mmh. On est venu là pour apprendre des technologies nouvelles, repartir plus riche qu'on est arrivé, etc. Et on nous dit...
Vous allez tous disparaître.
Voilà, imaginons que ce matin, tous les trois, on nous dit, vous allez tous mourir.
Bon. On a prédit la même chose pour les experts comptables, hein, par ailleurs.
Oui, alors, et aujourd'hui, on est toujours là. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est que on a de la résilience à condition, et je l'ai déjà dit, à condition de savoir s'adapter. Au moment d'Internet, je vous disais tout à l'heure que les professionnels américains maîtrisent 98% de parts de marché. C'est toujours vrai. Mais au moment d'Internet, de l'arrivée d'Internet et de ce fameux gourou qui disait tout va s'arrêter, parce que finalement avec Internet, les gens vont aller directement...
Il est connu le gourou, vous l'avez pas cité ?
Non. Puis non. Alors, je vais vous dire, j'ai pas envie de retenir son nom, hein, ouais. Franchement, parce qu'il m'a pas beaucoup inspiré. En tout cas, pas de sentiment très sympathique. Les particuliers américains ont essayé de reprendre un peu, passez-moi l'expression, de reprendre un peu de poil de la bête et de s'organiser tout seul. Ça a pas duré longtemps. Mais ils étaient passés quand même de 2 ou 3% de part de marché à 7, 8, 9, 10. Les professionnels ont su s'adapter et ont su maîtriser ça. Alors il y a eu l'époque où il suffisait de créer des sites internet et puis de prendre des millions. Nous, on n'a jamais cru à ça chez Orpi, on a avancé gentiment. Mais internet a été une révolution, effectivement, notamment dans l'organisation, dans le tri des affaires et dans la distribution des produits et l'affichage des produits. Mais on a su s'adapter. Et puis les entreprises ont créé leur propre site internet, etc., etc. Et le dernier point de votre remarque, c'était sur les évolutions récentes, parce que ce que vous évoquez là, moi, je le situe dans le temps. Allez, entre 5 et 7 ans d'aujourd'hui, hein, à peu près, les réseaux de mandataires, les réseaux que je qualifie hybrides n'étant pas péjoratif, c'est juste factuel. Par exemple, un réseau comme Keller Williams, qui est entre le modèle mandataire et le modèle agence traditionnelle. Oui, ces modèles-là sont nés, ils sont arrivés et ils se sont développés. Donc je crois que la bonne question qu'on doit se poser, c'est... Comment sont-ils arrivés ? Pourquoi et comment se sont-ils développés ? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que le reste de l'industrie a fait ? Parce que c'est factuel. Quand vous avez des responsabilités globales et nationales, votre travail, c'est pas de regarder juste devant vous, c'est de regarder loin et de regarder de plus haut. Et c'est surtout de considérer un marché. Ce marché... Il a très peu évolué, je vous l'ai dit. On est toujours à 65% de part de marché, à peu près. Mais, à l'intérieur de ça, il y a des nouveaux modèles qui ont émergé et qui, aujourd'hui, pèsent entre 20 et 22%. Donc, on ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas négliger ces choses-là. Vous savez, avant, l'image que j'ai, c'est que avant il y avait des continents. On faisait partie de ces continents. Et les continents sont devenus des archipels. Et ces archipels sont plus ou moins productifs. Mais n'empêche que l'ensemble de l'archipel fait la carte géographique. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et on doit mettre de côté l'affect, on doit mettre de côté les sentiments. Non pas que je n'ai pas de sentiments, mais c'est dans un autre domaine. On doit mettre tout ça de côté et on doit regarder de manière globale et pragmatique. Pourquoi je dis ça ?
Ça sera plus fluide aussi pour l'ensemble du marché d'avoir...
Oui, mais d'abord, et soyons humbles, aucun modèle ne peut prétendre à l'universalité de son modèle. Moi, je suis né et je viens du monde coopératif des agences traditionnelles et je continue de penser que ce monde-là a un avenir. Les réseaux de mandataires ne peuvent pas dire « il n'y aura que nous demain ». C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une cohabitation et de fait, il y a une cohabitation et une coexistence. C'est comme ça. Donc, il y a eu plein de révolutions. Les capitaux sont arrivés, etc. Il y a un invariant, et moi c'est ça qui me guide, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu en colère. L'invariant c'est quoi ? C'est le client final. Le client final c'est quand même celui qui nous fait vivre, partout, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Eh bien ce client final, quand il est vendeur, il veut des acheteurs, et quand il est acheteur, il veut du choix. Eh bien, de quelle manière nous professionnels pouvons-nous nous organiser aujourd'hui, maintenant et demain pour répondre à ces deux questions ? Ultra basique et ultra simple, de façon à ce que nous soyons incontournables. C'est ça. Aujourd'hui, regardez autour de vous, regardons autour de nous. L'enjeu des entreprises, c'est d'agréger du contenu et de partager ce contenu. Je cite toujours cet exemple, mais il me semble tellement symbolique et significatif. Tout le monde connaît la plateforme Salto. Salto, c'est trois chaînes concurrentes, trois chaînes de télé concurrentes. TF1, France Télé, M6. Si ça, c'est pas des concurrents, dites-moi ce que sont des concurrents. Parce que ils sont en permanence en compétition les uns les autres. Et ouais. Pour autant, ils ont considéré qu'il y avait du sens pour eux de créer cette plateforme, d'agréger du contenu et de la proposer à des clients. Et ben c'est ça qui est notre défi aujourd'hui. Ah oui.
Si je peux me permettre, là, on a l'impression que c'est quand même ultra défensif par rapport à l'ogre Netflix et qu'ils n'avaient pas tellement de choix. C'est-à-dire, c'est vraiment.
C'est pas faux.
C'est tout petit par rapport au.
Est-ce que
l'union fait la force à un moment,
Bernard. Mais on est bien d'accord. Mais j'ai pas dit qu'ils l'avaient fait par grandeur d'âme et par charité chrétienne. J'ai pas dit ça. Mais est-ce que vous pensez que si chacun reste dans son couloir, à courir dans son couloir, à pas regarder ce qui se passe, ni devant, ni à droite, ni à gauche, ça va pas se terminer un jour comme ça? Et vous croyez que si un Amazon ou quelqu'un comme ça décide d'adresser le marché, parce qu'ils ont la techno et ils ont les datas, et ils les ont toutes, qu'est-ce qu'on va devenir?
Donc, ah oui, ça risque d'être très compliqué. J'ai une question qui prolonge un petit peu. Si on va plus loin dans votre modèle, vous avez été précurseur chez Orpi en comprenant justement la force de l'union. E-listing, ça englobe tout le monde. Est-ce que c'est pas, ça ne va pas marcher sur les plates-bandes aussi du fichier MEPI du coup?
Ben non. Allez, soyons clairs. C'est compris comme ça et interprété comme ça.
Bah, de l'extérieur, c'est comme ça qu'on le comprend. Alors expliquez-nous.
C'est compris comme ça et interprété comme ça pour de mauvaises raisons. Les premiers que j'ai contactés, moi, quand j'ai créé Listing, c'est le fichier MEPI. En disant, on se connaît parce que j'ai contribué à cette création, donc je crois au modèle. Et deux, on n'a pas de notion de concurrence. E-listing, c'est gratuit. On n'a pas de modèle de rentabilité par rapport à ça. On a juste cette vision et cette notion. Alors peut-être qu'on va nous dire qu'on a tort et qu'on est dans l'erreur. Moi, je veux bien et je suis prêt à discuter et argumenter là-dessus. E-listing, c'est une plateforme. Une plateforme, c'est pour que différentes entités et différentes composantes puissent venir y trouver un intérêt. Donc, e-listing n'a pas pour vocation de dissoudre les organisations existantes. E-listing a pour vocation de rassembler sur une plateforme. Vous savez, la notion du plus petit commun dénominateur, c'est celle-là. Eh bien, de rassembler sur cette plateforme des acteurs qui ont finalement les mêmes idées, c'est-à-dire de partager des mandats. Mais je vais vous faire une démonstration arithmétique très simple. J'étais avec un confrère il n'y a pas longtemps qui me dit, écoute, l'idée du partage, nous on y croit, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, en ce moment, on n'a pas beaucoup de mandats dans l'agence. J'ai dit, ah bon, t'en as combien? Il me dit, j'ai 3 mandats. Qu'est-ce que tu veux que je partage? Ma réponse a été très simple. Je lui dis, mais imagine que tu te mettes avec 3 confrères qui ont eux-mêmes 3 mandats. Mm-hmm. Tu n'as plus 3 mandats à vendre, tu en as 9. L'idée de la plateforme, c'est ça. Il y a des clients, et je peux les citer parce que c'est tous des copains et je les apprécie. Il y a des clients chez Intercab qui ont un nombre de mandats à partager. S'ils viennent sur la plateforme e-listing, ils auront leur propre nombre de mandats à partager, plus ceux des autres. Mmh. Il y a un nombre de mandats à partager chez Amepi. Il y aura le nombre de mandats des adhérents d'Amepi, plus ceux des autres, etc. etc. Plus et plus, chez moi, ça fait toujours plus. Ça fait jamais moins.
8h40, Bernard Cadeau, j'aimerais qu'on profite de votre présence pour un petit peu parler actualité. C'est vrai que par exemple sur le Rent, on a eu cette chance d'aborder ce sujet qui est très complexe mais aussi majeur, la crise du logement. J'aimerais avoir à nouveau votre position là-dessus en deux mots.
La crise du logement, c'est un mal récurrent et c'est un mal silencieux. Parce que c'est récurrent, parce que depuis 20-30 ans, on ne construit pas suffisamment, on ne rénove pas suffisamment le parc immobilier existant. Et il y a de l'autre côté une demande qui est exponentielle. Donc quand vous n'avez pas assez d'offres et beaucoup de demandes, bah, ça fait des mécontents, ça fait des mal logés et ça fait des prix qui poussent. Moi, je suis contre l'encadrement des loyers parce que quand on me dit il n'y a qu'à encadrer les loyers pour que les prix baissent, je sais que ce n'est pas la bonne solution. Pour que les prix soient maintenus à un niveau raisonnable, il faut tout simplement qu'il y ait suffisamment d'offres en face d'une demande et que ça soit équilibré. C'est bête comme chou, mais c'est comme ça.
Est-ce que c'est propre à la France, tout ça?
C'est pas forcément propre à la France parce qu'il y a d'autres pays où ils sont également dans des difficultés, mais le pays qu'on prend le plus souvent comme comparaison avec le nôtre, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a une politique de logement et une stabilité relative, bien sûr, sauf des villes comme Berlin qui sont un cadre particulier. Mais globalement, ils ont réussi à équilibrer peu ou prou le parc offert aux clients et la demande des clients. Donc, il y a une forme de stabilité. Donc, tant qu'on ne comprendra pas ça, eh bien, on n'y arrivera pas. Et moi, je suis navré de constater ce qui se passe, parce que ça fait déjà plusieurs années. Alors, vous savez, on parlait de l'alignement des planètes tout à l'heure. Là, il y a un mauvais alignement des planètes, parce que on s'est retrouvé l'année avant les élections municipales. C'est traditionnellement une année où les maires hésitent à signer des permis de construire, pour des tas de raisons qu'on peut deviner. De mauvaises raisons, à mon avis.
Réticence citoyenne, on peut le dire ouvertement. Il y a une schizophrénie chez
les Français
dont je fais partie. Hein. On veut tous un peu de verdure, mais on veut que rien se construise à deux pas de chez nous.
L'effet TGV, on veut aller prendre le TGV à 5 minutes de chez soi, mais on veut surtout pas qu'il passe au fond du jardin.
C'est exactement ça.
Voilà. Mais n'empêche qu'il faut construire pour loger tout le monde. Donc il y a eu ça, il y a eu le Covid. Et puis là, les chiffres le démontrent. Il y a un effondrement des demandes de permis de construire. Et nous sommes en période préélectorale où on y est quasiment, on va dire, de plein pied en ce moment. Une fois encore, le logement n'est pas considéré comme une cause importante et une cause nationale. J'espère qu'il y aura quelques candidats qui vont s'en emparer. Les Français nous disent « ma première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat ». Je voudrais rappeler quand même, ici, à cette antenne ce matin, que le poste contraint des dépenses, le plus gros poste contraint des dépenses des ménages, c'est le logement.
Bien sûr.
Donc, je comprends qu'on parle du pouvoir d'achat, moi je comprends qu'on parle du prix du litre d'essence à la pompe, mais quand vous avez un taux d'effort chez certains qui est de 30, 35, 40, 45% pour les populations les plus modestes pour se loger, il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat. Et à part administrer tout nationaliser et décréter des loyers, ce qui serait l'horreur absolue, il faut bien qu'on rééquilibre l'offre avec cette demande qui est en face.
Vous l'avez souligné, hein, c'est un sujet qui est très peu abordé, en tout cas lors de cette campagne. Peut-être que ça va changer dans les prochains mois. Hein, puisque
Il reste presque 6 mois, donc il faut qu'on s'y mette tous.
Tous les professionnels pointent du doigt justement cette vacance. Du coup, vous, quels seraient vos propositions, vous avez quand même une fois de plus une expertise assez sereine là-dedans, vous avez forcément des idées à soumettre, alors pas pour sauver le monde, pas pour changer les choses du jour au lendemain.
Ça serait très prétentieux.
Mais vous avez forcément des idées qui peuvent faire écho aujourd'hui.
Répondez, candidat Bernard Cadet.
Avouez, vous vous présentez, avouez.
Non mais, tout le monde s'accorde à dire que les process d'instruction et de décision sont trop long et trop complexe. Donc il y a une simplification à faire. Ça, c'est absolu. Je pense qu'il faut remettre à plat toute la fiscalité, parce que on met des rustines. Vous savez, la politique fiscale, c'est des rustines. On donne un avantage. Alors, il y a des dispositifs dans notre métier, le Pinel notamment, le de Normandie, etc. Bon, ça sert à quelque chose. Mais si on regarde bien, si on avait un marché globalement bien organisé, bien structuré et bien fonctionnant, on n'aurait pas besoin de ça.
Mais c'est quoi un marché bien structuré ? Est-ce que les propositions qui sont faites aux investisseurs sont suffisamment challengeantes ?
Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que les investisseurs institutionnels reviennent. Les institutionnels reviennent sur le marché du logement. J'espère qu'ils vont y rester longtemps, parce que ce sont eux qui ont la capacité, au niveau massif, d'aborder un sujet dont on parle très peu, c'est celui des classes moyennes, c'est-à-dire le logement locatif résidentiel à prix raisonnable, pour qu'on puisse justement se loger. Il y a un hiatus dont on parle très peu souvent, mais qui est réel et qui finalement bloque les énergies. Parce que c'est pas la bonne volonté des politiques. Moi je suis pas de ceux qui disent les politiques ils font rien, etc. C'est pas vrai. On a une ministre aujourd'hui qui essaye de faire des choses, qui parfois a des paroles un peu malheureuses ou mal comprises, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il y a un hiatus qui est fondamental. Le cycle de fonctionnement et d'élaboration d'une politique du logement et de l'urbanisme, c'est entre 10 et 15 ans. Et le mandat des politiques, quel qu'il soit, il est de 5 ans. Et au passage, certains veulent marquer l'histoire de leur empreinte. Donc comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses-là? Et comment est-ce qu'on peut sanctuariser... alors là, il va y avoir une prochaine équipe gouvernementale. J'imagine qu'ils auront de très bonnes idées dans le domaine. Comment est-ce que les bonnes idées qu'ils auront peuvent être sanctuarisées, au moins sur les fondamentaux, pour qu'on ne revienne pas dessus et qu'il n'y ait pas du stop and go? Parce que c'est de ça. Et le stop and go en matière fiscale, c'est pire que tout. Pourquoi ? Parce que les particuliers n'investiront que s'ils ont confiance. Il faut leur donner confiance. Moi, je plaide depuis longtemps pour un statut ad hoc du bailleur privé, qui soit considéré comme un entrepreneur, comme un micro-entrepreneur, et qu'on lui donne de la perspective. Quand vous dites à quelqu'un, empruntez sur 15 ans ou sur 20 ans pour un dispositif fiscal dont vous ne sortirez pas avant 9 ans, et qu'à la 10e année, on vous dit, bah, finalement, la règle du jeu, elle a changé, on va faire autrement maintenant. Il faut qu'on instaure cette confiance dans le temps. J'ai une règle, c'est les 3 S. Hein. Il faut simplifier, il faut stabiliser et il faut sanctuariser. Je pense que voilà, si j'ai une suggestion à faire aux politiques, c'est celle-là.
Au-delà de l'investisseur, il y a aussi le primo-accédant.
Avec... Ah bah alors lui c'est le malheureux de l'affaire.
C'est le malheureux de l'affaire, en sachant qu'en plus, à partir de janvier 2022, nous avons encore un durcissement supplémentaire des règles bancaires, en tout cas des règles d'obtention. Et cette fois, les banques vont être sanctionnées, surveillées. On va vers où, là, finalement ?
C'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a... Et voilà, c'est l'effet média et ce que les non-avertis entendent et reçoivent. On est dans une situation où les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Moi, j'ai jamais connu des taux d'intérêt aussi bas. Donc, c'est historique. C'est youpi. Du coup, on se dit, si les taux d'intérêt sont aussi bas, tout le monde peut emprunter ce qu'il veut, comme il veut, et c'est la fête. Or, c'est plus la fête. Parce que on est passé, et vous évoquiez les primo-accédants, et vous avez raison, on est passé de 100% de financement, voire des fois 110%, à maintenant 90% ou 85%. Quand vous êtes primo-accédant, vous allez avoir un revenu dans le ménage, allez, on va dire, de 4000 euros. Et encore, pas tout le monde. Et quand on vous dit, au lieu de zéro apport, il faut amener 10, 15 ou 20 000 euros d'apport, comment faites-vous ? Et c'est bien le problème. Il y a deux catégories de Français qui sont les perdants et les sacrifiés, je pense, de toute cette évolution-là. Ce sont les primo-accédants, vous avez raison, et ce sont les classes moyennes. Et c'est d'autant plus important que notre industrie fonctionne par une alimentation comme une espèce de noria, si je peux prendre cette image-là, parce que les primo-accédants amorcent cette pompe-là, ils achètent un bien immobilier, puis ils le revendent dans 4 ou 5 ans. Ce bien qui est revendu va permettre à d'autres personnes de se loger. Eux-mêmes vont prendre quelque chose de plus grand ailleurs, etc. Et c'est comme ça que le marché s'alimente. Quand vous coupez cette matière première, si je peux dire, du marché, via les primo-accédants, eh bien, on va vers des soucis. Et tous les logements qu'on ne construit pas aujourd'hui et qu'on ne rénove pas aujourd'hui, c'est des logements qui nous manqueront dans 3 ans ou dans 4 ans.
Bernard Cadeau, on discute depuis 45 minutes effectivement à peu près.
Ça passe vite, hein.
Cette passion qui vous anime, l'immobilier. Orpi, bah, vous aurez pu arrêter là finalement peut-être. Vous êtes relancé sur e-listing, là, Partage Plus, cette nouvelle aventure. On va passer maintenant sur un plan plus personnel. Où est-ce que vous allez vous arrêter ? Est-ce que vos proches vous accompagnent toujours ? Ils comprennent cette passion qui vous anime, ou ils vous disent, bon, il est temps peut-être de lever un petit peu le pied ?
Alors, ils la comprennent, ils la partagent. Malheureusement pour eux, ils l'ont subi parce que j'ai eu une activité professionnelle très très intense et très chronophage. Comme ils m'aiment bien, ils acceptent. Mais ouais, ça durera pas, ça va pas durer 15 ans. Hein. Il
combien
va falloir un jour que ça s'arrête.
Combien de temps vous donnez encore ?
Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ouais. Donc j'ai pas envie d'aller grossir cette cohorte là. Je me fixe pas de temps. J'ai énormément de chance, vous savez, parce que je travaille pour des projets qui me plaisent et qui me passionnent, avec des gens qui me plaisent. Et c'est vraiment ça mon luxe aujourd'hui, parce que tout ce qui me passionne pas et les gens qui me plaisent pas, je travaille plus avec eux. Voilà. Donc comme ça, c'est dit.
C'est un luxe, hein, de pouvoir.
Mais c'est un vrai luxe. Ah non, mais attendez, c'est un vrai luxe et j'en suis conscient. Voilà. Et aussi, autre vrai luxe. J'ai retrouvé ma liberté de parole en quittant mes fonctions de président du réseau leader en France. Parce que de fait, donc moi j'ai ma liberté de parole. Quand ça va pas, ça va pas. Quand je dis qu'il faudrait plutôt sortir du politiquement correct et arriver au commercialement incontournable, hein, on passe du politiquement correct au commercialement incontournable. Chiche.
Ouais. Écoutez, moi aussi j'ai la joie et le plaisir d'avoir un collègue avec qui je suis ravie de travailler tous les jours. Donc vous voyez, on a aussi ce luxe chez Radio Immo.
Mais voilà.
C'était mon petit témoignage du matin. Je crois qu'on a le témoignage également de votre femme.
Oula.
Oui, on va l'écouter tout de suite, hein, puisque dans cette émission, vous connaissez la règle du jeu. C'est vrai que c'est un peu, on vous laisse l'antenne pour la musique, mais on a aussi posé des questions sur, un Bernard Cadeau plus intime, et on a contacté effectivement Madame. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour Madame Cadeau.
Bonjour.
Vous êtes l'épouse de notre invité Bernard Cadeau. Dites-moi, quand a eu lieu votre première rencontre ?
Oula, ça date. Je pense que c'était en 1988 ou 89.
Ah oui, donc ça fait un moment.
Ça fait quelques années déjà, n'est-ce pas ? C'était dans le cadre professionnel.
Et comment ça s'est passé, cette première rencontre ?
Cette première rencontre était fort sympathique, qui nous a sans doute amené à nous revoir. C'était effectivement, de mémoire, c'était dans l'enceinte d'un tribunal. Ça aurait été plus. Mais bon, non,
c'était là
pour des raisons professionnelles. Et c'est vrai que nos premiers échanges ont eu lieu dans l'enceinte d'un tribunal, mais on était là pour une raison professionnelle chacun. Et on a fait la connaissance l'un de l'autre à ce moment-là.
À quel moment il vous a fait craquer ?
Ça a été un petit peu long, hein, et je pense qu'il vous confirmera. C'était un petit peu long déjà, tout simplement parce que je me disais que ce n'était pas une bonne idée d'avoir une relation avec une personne que j'étais amenée à rencontrer dans le cadre professionnel. C'était un petit peu long, mais il a su me séduire, il m'a donné des chocolats, comme j'aime beaucoup le chocolat.
Et alors, quelles sont les qualités, mis à part le chocolat, qui vous ont fait craquer chez lui ?
Eh bien, à la fois, donc, c'est un épicurien, hein, qui aime déjà la bonne table, les bons vins, les bons nectars, n'est-ce pas ? Et puis qui est surtout très convivial, en fait, qui est toujours ravi d'être entouré de plein de monde, de recevoir ou d'aller voir des personnes. Et ça, bon, moi, c'est quelque chose qui m'a séduite, quoi. Toujours prêt, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, toujours prêt à partager des choses avec des amis. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt fort sympathique. La générosité, et puis il aime la vie. Et surtout, moi, je trouve ce qui est important, c'est qu'il est fiable. C'est-à-dire que quand il dit qu'il fera quelque chose, il le fait.
Et justement, la question inverse, quels sont ses défauts selon vous ?
Ses défauts, oui. C'est pas du tout, il n'est pas du tout bricoleur. Mais pas du tout. Donc, voilà, faut pas compter sur lui pour ce genre de choses. Alors, il veut bien aider pour plein de choses, mais c'est pas lui qu'on fait appel quand on a un petit problème dans une maison, n'est-ce pas ?
Eh bien, votre époux vous écoute. C'est le moment de lui faire passer un message.
Eh bien, ne change rien. Continue à être tel que tu l'es. Toujours aussi prêt à aider tes amis. Être toujours présent quand on a besoin de toi. Et puis, continue à être un bon papa. Et surtout, un bon mari. Voilà. Et je t'embrasse très fort.
Voilà la femme de Bernard Cadeau. Comment elle s'appelle votre épouse, Bernard ?
Marianne.
Marianne, voilà, qui vous décrit comme fiable, bricoleur pas terrible.
Pas bricoleur, ouais, j'ai pourtant ce travail à faire chez moi.
C'est même pas terrible, c'est carrément
c'est
nul.
Zéro.
Oui, voilà.
Bon, on peut pas avoir tous les talents, en tout cas amateur de bonne chère. Si vous ne pouviez que vous entendre avec nos amis, les fondateurs, bien sûr, de Radio Imo. C'est vrai que c'est toujours cette petite pastille et ce petit clin d'œil. On parle beaucoup de business, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de rentrer un peu dans votre intimité, si on peut dire, pour aussi comprendre le personnage, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Quels sont vos hobbies, à quoi vous consacrez quand vous avez un peu de temps libre?
Il faut que le boulot soit incarné. Alors moi, mes hobbies, j'en ai plein. Pas toujours le temps de tous les pratiquer. Je fais du sport, je fais du vélo, je fais de la moto, j'aime les voitures anciennes. La peinture, enfin, plein de choses, voilà. Et surtout, c'est ce que j'espère que tout le monde garde jusqu'au dernier moment, c'est la curiosité et la capacité à s'étonner et à s'émouvoir. Parce que je crois que quand on n'a plus ça, ben on n'est plus grand-chose. Mmh. Voilà, donc je suis un curieux perpétuel, moi.
C'était un plaisir de vous avoir ce matin au Mac de Limo. Un grand merci, Linda,
pour
cette
plaisir.
Première, mais pas cette dernière. On aura l'occasion de se revoir très tôt le vendredi. En tout cas, on était ravis de vous accueillir.
Merci, merci pour votre accueil. J'étais ravi.
Bernard Cadeau, on se quitte moi sur cette phrase que j'ai trouvée très jolie. On la recite. Si vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est peut-être pas de vous, mais on va le retenir. Et
non, c'est d'une femme. Alors, juste 30 secondes pour la citer. Elle a été prix Nobel de la paix et elle a été présidente du Liberia, un pays pas facile en Afrique. Et c'est une phrase qui me suit depuis que je l'ai découverte, parce que je la trouve tout à fait pertinente.
Et voilà, on se quitte en musique. Votre deuxième choix musical, là aussi années 80, Dire Straits. On reste aux États-Unis.
Pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait réveillés, quoi.
Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Merci,
merci
Bernard
Cadeau.
À
merci
très bientôt sur Radio Imo. Excellente journée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Mac de l'Imo.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.